VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique américaine. Pour le second jour consécutif, des manifestants ont défilé jeudi dans les rues de plusieurs villes américaines pour protester contre la victoire inattendue du républicain Donald Trump à l'élection présidentielle. Exprimant les craintes de voir l'accession de l'homme d'affaires à la Maison-Blanche porter un coup dur aux droits civiques dans le pays. À Portland, dans l'Oregon, la manifestation a dégénéré en fin de soirée lorsque des jeunes ont jeté des projectiles sur les policiers, brisé des vitrines et endommagé des voitures et du mobilier public. La police de Portland, qui a qualifié la manifestation d'émeute, a riposté en tirant des grenades lacrymogènes. Des actes de vandalisme ont aussi été rapportés à Oakland, une des villes de Californie où se tenaient des rassemblements avec Los Angeles et San Francisco. Cela dit, les Américains musulmans se préparent à vivre sous un nouveau président qui avait, pendant sa campagne électorale, proposé d'interdire l'entrée aux musulmans étrangers à la suite de plusieurs attentats terroristes aux États-Unis. Les Américains musulmans sont-ils inquiets, Saloua Jafari?
Pour beaucoup de musulmans résidant à Dearborn, au Michigan, la victoire de Donald Trump est venue comme une surprise.
Trump a mené une campagne ancrée dans le racisme et la bigoterie. Il l'a utilisée pour avoir le soutien des électeurs et nous assistons maintenant au résultat. Et c'est une pensée effrayante.
Pour Abdallah Hamoud, nouvellement élu membre du Congrès, la nuit électorale était remplie d'émotions contradictoires.
C'est un vrai contraste. Pour la première fois dans l'histoire de Dearborn, on a élu un musulman arabo-américain de la première génération. Et à l'échelle de l'État, on soutient Trump et une présidence Trump.
Asha Noor est une activiste au centre communautaire arabe. Trump à la Maison-Blanche, c'est une image qui ne l'enchante pas.
Cela montre que le racisme et la bigoterie ont prévalu. Cela me montre que je ne vis pas dans une société post-raciale. Et cela me montre que certaines communautés ne sont pas les bienvenues dans cette société.
L'éditeur d'Arab American News, Osama Siblani, affirme que beaucoup d'Américains musulmans ont voté pour Hillary Clinton, mais n'étaient pas vraiment passionnés par sa candidature.
Pour la première fois hier, le président Barack Obama et son successeur Donald Trump se sont assis côte à côte dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Une scène inimaginable il y a quelques jours. Ils se sont efforcés de tourner la page des mois de campagne acrimonieuse et d'afficher une volonté de travailler pour le bien de la démocratie américaine. Gabi Dorsil.
Le tête-à-tête a duré environ 90 minutes. Monsieur le Président, c'était un grand honneur d'être avec vous, a déclaré le milliardaire. Monsieur Trump s'est dit impatient de recevoir les conseils de celui qu'il avait qualifié durant la campagne de président le plus ignorant de l'histoire. De son côté, Monsieur Obama a évoqué une excellente conversation, ajoutant vouloir tout faire pour l'aider à réussir. Quelques jours avant le scrutin, Monsieur Obama, à Las Vegas, avait pourtant martelé que « nous ne pouvons pas nous permettre d'élire ce type. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Les deux hommes, à la fin de leur entretien, se sont serrés la main et n'ont répondu à aucune question des journalistes. Ils ont même plaisanté avant de se séparer. Le républicain prendra ses fonctions le 20 janvier.
Après la Maison-Blanche, le président élu Donald Trump s'est aussi rendu au Congrès des États-Unis. Il y a rencontré notamment Paul Ryan, président de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. Pour gouverner, Donald Trump aura besoin de l'appui du Congrès, dont les deux chambres sont dominées par les républicains. Le président élu s'attelle maintenant à la constitution de son équipe gouvernementale dans le cadre de la transition.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, le chef de l'ex-junte malienne, le général Amadou Sanogo, sera jugé devant les assises à Bamako à partir du 30 novembre pour assassinat et complicité d'assassinat de militaires dont les corps ont été découverts dans un charnier en 2013. Le général Sanogo, incarcéré depuis fin 2013, est inculpé dans l'affaire des Bérets Rouges, des soldats opposés au putsch de mars 2012 qui a renversé le président Amadou Toumani Touré, et dont les corps ont été retrouvés en décembre 2013 dans un charnier à Diago, près de Bamako. Les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-coup d'État. Avant le putsch de mars 2012, Amadou Sanogo était un obscur capitaine de l'armée malienne. Il a ensuite été promu général avant de tomber en disgrâce au terme d'une transition ayant débouché en 2013 sur l'élection à la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Selon le code pénal malien, le général Sanogo risque la peine de mort. En Côte d'Ivoire, les fonctionnaires durcissent leur mouvement après 3 jours de grève. Ils comptent reprendre leur arrêt de travail à partir de décembre et dénoncent une nouvelle fois les coupes sombres dans les pensions des retraités et des veuves. Toujours en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a de nouveau refusé hier de comparaître à son procès pour crime contre l'humanité. Elle proteste contre la non-comparution comme témoin de plusieurs personnalités ivoiriennes. Éric Manirakiza.
C'est la deuxième fois que Mme Simone Gbagbo refuse de venir à son procès depuis son ouverture le 31 mai. Le juge Bwaki Kwadjo a dû suspendre l'audience. Il lui a transmis une sommation à comparaître le 16 novembre et à défaut pourrait la faire venir de force. Mme Gbagbo avait déjà refusé de venir le 25 octobre dernier. Son procès a déjà été bloqué lundi pendant plusieurs heures. La défense veut entendre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Kwadio Aoussou, ancien Premier ministre et bien d'autres personnalités ivoiriennes. Simone Gbagbo ne peut pas défier la justice, s'est insurgé Issiaka Diaby, président du collectif des victimes. Madame Gbagbo est accusée de crimes contre l'humanité pour son rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts. Elle purge déjà une peine de 20 ans pour atteinte à la sûreté de l'État.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Burundi, plus de 13 000 étudiants des universités publiques et privées attirent l'attention sur leur sort, déclarant publiquement que leur vie au quotidien est difficile. Suivons le reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Six étudiants de l'université de Bujumbura vivent dans une même chambre louée dans le quartier de Nyakabiga, proche. 3 sont boursiers du gouvernement, les autres non. Ils se disent frères au sens burundais du terme, partageant la même chambre et la même assiette une fois disponible. La plupart des étudiants louent des maisons dans des quartiers périphériques car leur bourse de 17 dollars le mois ne leur permet pas de vivre décemment. Cet étudiant de deuxième candidature en histoire nous explique que lier les deux bouts du mois est une gymnastique intenable.
La vie est difficile. Nous sommes en train de mener une vie vraiment difficile, surtout concernant la vie, comment on peut se restaurer et puis la location de là où nous habitons, c'est vraiment compliqué avec la bourse que nous percevons de 30 000. Si on parvient à payer la maison, on ne peut pas se restaurer, on ne peut pas voir comment se déplacer vers le milieu ou apprendre les cours. C'est vraiment difficile. Ça arrive souvent que ça provoque les échecs.
Jadis, les étudiants de l'Université du Burundi avaient des bus de transport. Aujourd'hui, les anciennes habitudes ne sont pas de mise. Il faut aller dans les amphithéâtres à pied sous un soleil ardent ou une pluie diluvienne. La belle époque des années dernières a déjà changé. Témoignage d'un étudiant qui habite à Nyakabiga avec 5 autres étudiants.
La maison donc est louée à 80 000. Il nous est difficile de payer cette maison, mais aussi de manger. Étant donné que nos parents sont pauvres, il nous est aussi difficile de trouver quelque chose à manger. 30 000, c'est très difficile.
Toutes ces conditions draconiennes dont font face quotidiennement les dizaines de milliers d'étudiants des universités au Burundi ne facilitent pas l'assimilation des cours. Les résultats académiques ne sont pas brillants, comme l'affirme ce fonctionnaire chargé de la qualité des cours enseignés à l'université du Burundi. Docteur Valos Runagu.
Je pense que ce que disent les étudiants est tout à fait correct, une réalité, que les conditions dans lesquelles vivent et travaillent les étudiants impactent de façon directe leur performance sur le plan académique. Par le passé, il y avait un bon nombre d'étudiants qui étaient logés au niveau des homes universitaires et qui donc bénéficiaient des avantages sociaux quand même assez consistants, qui leur permettaient de travailler dans des conditions plus ou moins acceptables. Eh bien, je dois dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ces avantages sociaux ont beaucoup diminué. C'est clair que les conditions de vie de plus en plus difficiles dans lesquelles se trouvent nos étudiants impactent de façon directe leur performance sur le plan académique.
Aujourd'hui, les autorités gouvernementales ont opté pour un prêt bourse pour les futurs étudiants de l'Université du Burundi, excepté ceux qui reçoivent des bourses d'excellence. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Afrique du Sud, le président sud-africain Jacob Zuma a échappé jeudi sans surprise à une nouvelle motion de défiance déposée au Parlement par l'opposition. et ce, malgré les critiques croissantes suscitées, y compris dans son propre camp, par les affaires de corruption qui le visent. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.